Oui, c'est à la page 19. En haut. Bien, là nous allons avoir un texte un peu plus explicite du Spatemet, qui est un des grands enseignants du judaïsme ashkénaze de la génération précédente, le Spatemet. Et voilà quel est le principe. Vous savez que dans le calendrier, il y a une différence entre les fêtes qu'on appelle les fêtes bibliques, c'est-à-dire les Moadim, qui commémorent les grands événements qui se sont produits dans la génération de la sortie d'Égypte. Okay. Vous vous rappelez de la place particulière du temps de la génération de la sortie d'Égypte dans l'ensemble par rapport à la Torah. C'est-à-dire les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, commémorent les événements de cette génération de la sortie d'Égypte. Les grandes fêtes qu'on appelle les Moadim. Okay. De la même manière que les mitzvot de la Torah, Midoraita, de la base de la Torah, sont les mitzvot telles qu'elles sont données à cette génération-là. C'est clair. Bon, nous verrons aussi dans le calendrier d'autres fêtes qui commémorent des événements qui ont été postérieurs. En particulier, quelles sont les deux grandes fêtes des événements de l'histoire juive? Hanouka et Pourim. Bon, alors nous allons avoir cet enseignement du Sfat Emet, vous allez suivre avec moi, à ce propos. Hanouka ou Pourim? Qu'est-ce que c'est les régalim? C'est les trois fêtes de pèlerinage. On appelle les shalosh régalim. Régel, la fête de pèlerinage. Okay? Alors, Hanouka et Purim sont Heharot. Hehara, c'est la lumière et puis le halo de la lumière. Ça s'appelle Hehara. Comment on dit la lumière? Or. Alors, le or donne une Hehara. Alors, donc voilà le principe. Hanouka et Purim sont, par rapport au régalim, comme une Hehara par rapport à un or. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance. Rak shalosh a régalim a mefurashim ba Torah hem Torah shebirta. Uniquement les trois régalim, c'est-à-dire les trois fêtes de pèlerinage, qui sont données de façon explicite dans la Torah, sont Torah shebirta. Veyesh negetze. Et il y a, par rapport à cela, par rapport aux trois régalim de la Torah, pour qu'on en parle, Gamken régalim et Torah Shabbat. Il y a aussi les régalim de la Torah Shabbat. C'est clair, je n'ai pas besoin de traduire. Vehem orot amkabelim. Et ce sont les lumières que l'on reçoit, qui diminuent ora lebana, à peu près à la manière de la lumière de la lune, shehi mekabelet ora minachama keyadwa, qui reçoit la lumière du soleil, comme on sait. Tout se passe comme si la Torah Shebirta est comparée au soleil, la Torah Shebirta est comparée à la lune. Dans le problème des régalim, la lumière des régalim, Torah Shebirta, Pessah, Sukkot, Shavuot, c'est comme la lumière que donne le soleil, mais il y a les fêtes de l'histoire juive qui reçoivent leur signification comme un halo de lumière qui vient de ce lumière-là. Vous comprenez donc le raisonnement. Qui a lié des Koham chez le Bnei Israël. Par la force des enfants d'Israël, de Kabbalatam à Yom Tov Karaoui, lorsqu'ils reçoivent le Yom Tov Karaoui comme cela est nécessaire, convenable, c'est-à-dire si les fêtes de la Torah Shebirta sont pratiquées comme il faut le faire, c'est-à-dire si on s'identifie vraiment en tant que juif dans l'événement historique de l'identité hébraïque, alors arrive dans l'histoire juive l'événement correspondant de l'événement arrivé dans l'identité. Est-ce que c'est clair? C'est compris. C'est-à-dire, la fidélité à Pessah va nous donner la possibilité de pourrir, etc. Enfin, je ne sais pas la correspondance, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nishar Mikol Yom Tov Reshima B'Knefet Israël. De chacun de ces jours de fête des temps bibliques reste une trace dans l'Assemblée d'Israël. Ou de koarze, rotsi a kenegdam regalim achir. Et par cette force-là, par cette capacité-là, l'Assemblée d'Israël a pu faire apparaître, par rapport aux fêtes bibliques, d'autres fêtes qui sont celles de l'histoire juive, mais qui se correspondent dans leur signification. Hanouka, heara misukot. Hanouka est relié à Sukkot. Purim, nehav achavot. Pourim est relié à Shavuot. Entre parenthèses, et ça c'est un thème, je crois que nous avons étudié à Pourim, Kabbalah ta Torah Meratzon, la Torah à Pourim a été acceptée en toute liberté, vous vous rappelez, alors qu'à Shavuot, elle avait été imposée. Vous vous rappelez ? Donc il y a une relation entre Shavuot et Pourim. Pourim, c'est le Shavuot de l'histoire juive. Et Hanouka, c'est le Sukkot dans l'histoire. Quand vous étudierez dans la Gemara, je ne sais pas si vous avez, quand vous avez étudié les dinim de Hanouka, on l'a indiqué, je ne me souviens pas, c'est que la Gemara établit que la progression des lumières doit se faire parallèlement à la progression des sacrifices qu'on fait dans la fête de Sukkot. Ador qui vous voit bimar Hashverot, ça c'est pour la relation entre Pourim et Shavuot. La génération au temps d'Assyrus a accepté la Torah, a accepté la Torah qui avait été imposée sans le Shavuot de vous rappeler de ce problème. Ou Mechag HaPessach, et au sujet du Chag HaPessach, bon, ce texte nous a été enseigné bien avant le Yom HaTzmaout, bien sûr. Au sujet du Chag HaPessach, voilà ce que dit le Sfatemek en son temps. Mekavim anu liyot od. Nous espérons encore que Moshe Nehemar, comme il est dit dans un verset du prophète Micha, Miché en français, Micha, chapitre 7, verset 15, qui met Tzetecha Meiret Mitzrayim et Renu Niflaot. Comme au temps de ta sortie d'Égypte, montre-nous des merveilles. C'est-à-dire, à partir de ce verset, il y avait cette tradition que les événements de la fin des temps, de la Géoula de notre présent exil, seront une reprise des événements de la sortie d'Égypte. Je vous ai montré dans certains cours un certain nombre de correspondances. Okay. Et en particulier, si je me souviens bien, mais nous allons voir immédiatement. Donc, comment est la relation de ces deux enseignements? On s'attendait à un événement du type de Pessah. Et finalement, il est arrivé d'après cela. Le septième jour de Pessah a pour correspondance le Yom HaTzmaout. Et le septième jour de Pessah, c'est celui qui commémore, comme on l'a vu tout à l'heure, le passage de la Merou. Vous vous rappelez qu'on a étudié à ce propos, si vous ne vous en souvenez pas, je peux encore vous donner la référence, mais on l'avait déjà étudié, qu'au moment du passage de la Mer Rouge, Moïse, pour rassurer les Hébreux, leur dit, regardez bien les Égyptiens, parce que comme vous les voyez maintenant, l'Oto Sifu Nirotam Od Al-Rolam, vous ne les reverrez plus jusqu'à la fin des temps. Or, on les a revus de notre temps, donc c'est qu'on est à la fin des temps de l'histoire, vous y avez eu. C'est clair? Vous savez que c'est aujourd'hui, je pense, que le premier bateau israélien a traversé le canal de Suez. Et le. Bon, voilà le deuxième texte que je voulais vous. Alors, si ça vous intéresse, on peut faire encore quelques textes sur les calculs de la date à laquelle est arrivé Yom HaTzmaout. Enfin, je pense que c'est maintenant inutile, vous êtes convaincu. Hein? Vous voulez qu'on en fasse un ou deux? Regarde, tu veux demander à Claire si elle me trouve un petit livre que j'ai dans la bibliothèque qui s'appelle le Sifra de Tinoata du Grand de Lune. Sifra de Tinoata. Bon, alors vous allez déjà en prendre un ici. Vous êtes sûr que je ne vous ai pas donné un compte du Grand de Lune? Non, bon alors je vais vous le donner. Mais vous me promettez une chose, c'est que vous n'avez pas des cauchemars. Parce que ça tombe juste. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a fait une fois un peu d'informatique? Oui. Oui. Alors vous savez le nombre de facteurs qui doivent converger pour qu'une histoire de ce genre arrive. Bien. Vous comprenez ce que c'est inouï, enfin, ça donne le vertige. Bon, ça veut dire que vraiment, il y a une loi des temps et que, à partir du moment où les événements arrivent au temps fixé par la prophétie, c'est qu'ils ont une valeur absolue. Mais je voudrais vous dire d'abord qui est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, c'est le plus grand des maîtres d'Israël des dernières centaines d'années. Après le Hari chez les Sfaradim, vous avez entendu parler du Hari, le grand cavalier de Sfad, Rabbi Yitzhak Luri Ashkenazi, il s'appelait Ashkenazi par hasard, c'est le Gaon de Vilna. C'est rien. C'est pas de hasard. Si je vous dis que je suis de sa famille, vous n'allez pas me croire.
On n'a rien dit.
Non, mais ça, c'est par hasard. Oui. Et alors, là. Et après le Hari, il y a eu. Dans la ligne des Hasidim, le Baal Shem Tov, et dans la ligne des Mitnagdim, le Gaon de Vilna. Bon, il y a eu dans les deux écoles du Gaon de Vilna des dizaines de très grands. C'était la grande école des Juifs d'Europe. Et dans le temps contemporain, c'est le Rav. Et le père. Et lorsque le Gaon de Vilna lui donne un calcul pareil, il ne joue pas au bim. C'est le Gaon de Vilna qui a fait le calcul. C'est pas un petit calculateur. Vous avez compris ce que je veux dire. Et moi, je suis toujours étonné de voir tous ces centaines de rabbinicules qui suivent invariablement le Shulchan Aruch du Gaon de Vilna. Dès qu'ils arrivent au problème d'Eretz Israël, le Gaon de Vilna, on ne connaît plus. Parce que le 8e de patrouille, il lui aura dit non, ça, c'est pas caché. Vous comprenez le scandale de tout ça. Bon. Alors, attendez, on va voir un technique. Prenez d'abord juste cette phrase-là. Juste cette phrase-là. Juste avant le premier texte, on a à la page 13. Juste une phrase. Et il y a le 5 Iyar. Matrila Achana le Kabbalah Torah Shavuot. C'est donné de la halakha depuis toujours. On commence à se préparer à Shavuot, c'est-à-dire à recevoir la Torah à Shavuot, à partir du 5 Iyar. Parce que c'est le 5 Iyar que a été gagnée la guerre contre Amalek au moment de la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez de l'épisode de la guerre contre Amalek, okay? Vous vous rappelez de ce contexte? Il y a eu une mise en doute. Ailleurs, concernant la révélation, Ailleurs, Hachem, Bekirbenu, Imaïn, va y avoir Amalek. Vous vous rappelez de ça? Alors, dans la tradition, donc depuis toujours, le 5 Iyar, on commence l'étude, enfin des dinim, pour nous préparer à Shavuot. C'est-à-dire, le 5 Iyar, c'est le jour où on bascule dans la période du Homer, de la polarité Pessah à la polarité Shavuot. Ça se rattache donc au principe que. Tous les événements de la délivrance viennent se ranger dans la période du Homer jusqu'à ce qu'on rejoigne le Shavuot de la fin des temps. Okay. Mais d'ailleurs que par le seul fait que le Yom Shehur Yerushalayim, le jour de la délivrance de Jérusalem, est tellement près de Shavuot, c'est qu'on est très très près déjà du Shavuot de la fin des temps. Bon, comment bien penser qui vivra verra. Alors, on va faire un texte qui se trouve, le premier texte de la page, je vous l'avais déjà fait lire, il me semble. On va le refaire. Alors, prenez, depuis le haut de la page 13. « Besof achamashet alafim shvarmeot shana lebriyat haolam » À la fin de 5700 années de la création du monde, « Yet bekiru » à peu près, approximativement, il n'est pas codem ou n'est pas harka, soit un peu avant, soit un peu après, yabo kitsenu veizrat hashem. Arrivera notre terme de l'exil avec l'aide de Dieu, le mara nyochlu, bene rachevet ben Israël betah al matam, afin que les enfants d'Israël puissent résider en sécurité sur leur terre. Après le texte qu'on a fait vendredi soir, que pendant les événements de la dernière guerre mondiale, le Yeshuv Eretz Israël a été sauvé par miracle. Je ne sais pas si je vous ai parlé de cela. Est-ce que je vous ai parlé de cette prière qu'il y a dans le Ritz Paradis, et dans le chemin ministré, compris pour que le marché à Bénosset ne soit pas détruit? Non. Est-ce que quelqu'un va m'apporter mon sidour rouge, celui dont je me sers le Shabbat? Je ne sais pas s'il est en bas ou en bas. Il est en bas. Donc, on continue ce fait. Bishlosh Meot Shana, Me'elef Ashish, c'est-à-dire 300 ans avant la fin du 6e millénaire. Okay. Alors, quelle est la date de la proclamation de l'État d'Israël? 5708. Bon. Alors, il est bien évident que ce rabbin qui enseigne ici savait exactement la date, comme le bon de Vina, etc. Ça, ce sont des traditions qui viennent des prophètes. Et je vous rappelle quel est le principe. S'il y a un mérite suffisant, ça peut être n'importe quand, aujourd'hui, demain, à travers le monde. Vous rappelez-vous? S'il n'y a pas de mérite suffisant, alors ça viendra en son temps. Si ça vient par le mérite, ça vient par des miracles dévoilés et le temple descend tout construit du ciel. Okay. On n'a pas vérifié ça, alors ça vient par le droit de la nature, ça vient dans les catastrophes, ça vient quand c'est venu, nous avons vécu ces catastrophes. C'est clair. Et tous les textes sont clairs. Ou bien vous voulez, alors aujourd'hui si vous voulez. Ou bien vous ne voulez pas, ça viendra quand même, mais vous verrez ce qui se passera. Et quel est ce mérite-là, encore une fois, c'est le mérite de se trouver en Eretz Israël. Il n'y a pas d'autre mitzvah par rapport à ce problème de mérite. Rappelez-moi pour le coup de la Kitabet que je vous étudie ce problème-là demain matin, notamment. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura suffisamment de mérite, est-ce qu'il n'y aura pas suffisamment de mérite. Mais rappelez-moi, c'est dans la Sanhedrin. Si tu ne le rappelles pas, je vous oublie. Bon. Et nous verrons d'après ce contexte qu'il ne s'agit pas d'un autre mérite que celui-là, de décider d'aller habiter en Eretz Israël, de cette mitzvah-là. Okay. Vous comprenez un peu? Et je vais vous donner un exemple un peu brutalement, c'est un problème un peu brutal. Pendant la Shoah, ont été détruits et les juifs pieux et les juifs pas pieux, et les juifs qui pratiquaient, les juifs qui ne pratiquaient pas. Ils avaient une seule chose en commun, une mitzvah qui ne pratiquait ni les uns ni les autres. Celle d'habiter en Eretz Israël. J'ai compris, toi ? C'est clair. C'est-à-dire que par rapport à la promesse du retour en Eretz Israël, il y a une seule mitzvah qui compte, c'est revenir. Il ne s'est jamais agi d'un autre mérite que celui-là. Bien. Alors voilà ce qui se passe. Les mâles, Israël et Enkol, Heyota et Metana, afin que ce soit dévoilé aux yeux de tous que la vérité est avec eux, avec les bénis d'Israël, Veyenu, Begouf, Benefesh, Minor, Lamazé, et qu'ils puissent jouir dans leur corps, dans leur esprit, et dans leur âme, si vous voulez, ça veut dire la personne, de ce monde-ci. C'est-à-dire les seuls temps où les juifs sont de ce monde, c'est les temps où ils habitent en Eretz Israël. Et pendant le reste du temps, ils habitent dans l'enfer. Enfin, vous comprenez les images, ça ne va pas d'où. Tahad Hashem et Enchum, Verol Galut, Aumon, Begouf, Benefesh. En compensation du fait qu'ils ont été persécutés par le joug de l'exil chez les nations, dans leur corps et dans leur esprit. Bon, voilà déjà un exemple très, très clair. Avant d'aborder l'enseignement du Yom de Vilna, il me semble que je vous ai parlé de cela, mais enfin, si vous en avez parlé, je le reprends quand même. Ça va peut-être vous étonner, mais notre génération a vécu ces choses-là. Bon, dans le rite Sfaradim, il y a une kavana, ça veut dire une intention de prière, lorsqu'on dit la bracha suivante du Shmoné Esré, Dishkon Betor Yerushalayim Echa, réside dans Jérusalem Tabim, Kacher Ibarta, comme tu l'as promis. Et le trône de David, ton serviteur, Tachim, prépare-le au sein de Jérusalem Meera, rapidement, et construis-la d'une construction éternelle, d'une Rabbi de notre jour, de notre temps, Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim. Et c'est la vocation à Dieu comme construisant Jérusalem, et c'est la relation au temps du Mashiach Ben Yosef, dont la première, une des prérogatives, enfin centrale, c'est de reconstruire Jérusalem. Or, Jérusalem est reconstruit, se reconstruit. Je ne veux pas dire que c'était Nicolas, mais vous allez le faire, je vais le reconstruire. Il faut être aveugle pour pas voir que Jérusalem se reconstruit. Je pense que vous comprenez. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà venus dans le pays il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans? Bon, Jérusalem, c'est une petite bourgade autour du Kikar Tzion, il y avait la vieille ville, et. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça a changé depuis 1948, ça n'a aucun rapport avec ce que c'était. Bon. Et alors, là, au moment où on dit Vechise, Dari, Amrecha, Mera, Betoucha, Ptachi, il y a une Kavana dans le Ritz Parmi, et rapidement, pourquoi c'est le Ritz Parmi qui a cette Kavana? Ichaven, Shelo, Yareg, Mashiach Ben Yosef. On doit penser que le Mashiach Ben Yosef, demander que le Mashiach Ben Yosef ne soit pas tué à l'aider Arminou Sarachar, par un certain Rachar qui s'appelle Arminou. Bon, je vais vous expliquer tout. Premièrement, pourquoi dans la vie de Sparami? Je ne sais pas si on a parlé de ça assez en détail, mais je vous ai parlé un peu de la typologie différente du monde Ashkenaz et du monde Sparami. Le monde Ashkenaz, c'est Jacob chez Esaü. Okay? Et le monde Sparami, c'est Isaac chez Ishmael. On a parlé de ça?
Bon.
Et donc, le conflit, il y a donc deux valeurs différentes. Et c'est pourquoi l'identité Sparami et l'identité Ashkenaz est différente. Mais ce sont des problèmes de valeur. L'identité israélienne va récapituler tout ça. Et le conflit de Jacob et Esaü n'est pas le même que le conflit de Isaac et Ishmael. Le conflit de Jacob et Esaü, c'est un conflit spirituel. Qui est Israël, hein? La querelle entre la chrétienté et le judaïsme, c'est le monde ashkénaz qu'il a vécu dans le monde chrétien. C'est clair. Nous devons parler de ça. Tandis que le conflit entre Ishmael et Isaac, c'est un conflit politique. À qui appartient l'héritage d'Abraham, la terre d'Israël, la terre de Canaan. Okay. Bon. Alors on apprend, par beaucoup de sources, que c'est Jacob qui aide Isaac dans son conflit contre Ishmael, et c'est Isaac qui aide Jacob dans son conflit contre Israël. Vous suivez? Bon, comment? Est-ce qu'on a tout cela? Bon, c'est-à-dire le sionisme politique est sorti du monde ashkénaz et il s'appelle Machiav ben Yosef. Joseph, c'est le fils de Jacob. Alors que le sionisme spirituel sort du monde Sparas, c'est-à-dire David, descendant d'Isaac, vous vous rappelez ce texte-là, c'est la vie de David, hein? Et c'est grâce à la Kabbalah que le judaïsme a pu triompher du Christ. Alors la Kabbalah est sortie de Sparas. Je pense que c'est ça. Et il y a des raisons historiques pour ça, mais enfin, c'est les traditions. Donc c'est normal que ce soit le Sparagim qui prie pour le Machiav ben Yosef. Parce que le Machiav ben Yosef sort des Ashkenazim, effectivement l'État juif est sorti des Ashkenazim, et le Machiav ben David sort des Sparagim, la Torah sort des Sparagim. C'est comme ça. Je pense que c'est la collaboration des deux forces en Israël. Et donc c'est normal que les Sparagim prient pour que le Machiav ben Yosef, selon une tradition kabbaliste, il risque à la fin des temps d'être tué par un certain Arminou. Or, je vais vous expliquer que nous avons vécu ces événements-là, mais pas trop de cauchemars, mais c'est comme ça l'histoire est là. Qu'est-ce que c'est ce Arminou?
C'est tout simplement Arminus. Et le nom de Arminus, c'est le nom de Romulus, le fondateur de Rome, tel qu'il est passé dans le Midrash, après la lettre rabbinique au temps des Grecs, c'était Arminaus. Et dans le Midrash, c'est le nom du chef d'état-major des armées Goy qui font la guerre contre le Machiav ben Yosef. Or, autant la Deuxième Guerre mondiale, le Yishuv était protégé par la brigade juive, vous avez entendu parler de la brigade juive au sein des Britanniques, hein? Et il y avait le risque que l'armée allemande et italienne de l'Afrique du Nord et d'Égypte, qui était dirigée par un certain Rommel, vous avez entendu parler, conquête le Yishuv et détruise dans l'œuvre l'État d'Israël en continu. C'est-à-dire, voilà, vous avez compris. Hein? C'est-à-dire, la guerre des Sparagim a réussi, les Romains n'ont pas réussi à tuer Moshe Rabbeinu. Il y a juste les Romains n'ont pas réussi. Vous voyez ce qui se passe? Puisqu'il est bien évident que si la brigade juive avait été détruite par l'Afrique à Corse, je ne sais pas comment vous l'appelez, le Yishuv n'était pas légué et puis. Il n'aurait pas eu l'État d'Israël. Vous comprenez ce que c'est? Bon. Alors, oui, c'est une coïncidence, bien sûr. Il s'appelle Robert. Mais je vais vous poser une question simple. Qu'est-ce qu'un maréchal allemand s'appelle Rommel? Rommel, c'est mon italien. Alors, il fallait donc que l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne se mettent ensemble. Et puis, il arrive cette chose inouïe que le maréchal de l'Afrique à Corse s'appelle Rommel. Et Rommel, c'est le dieu de Rome. Et le Rome, ok? Et. Bon, que ça réussit. Bon, je referme la parenthèse. Alors il faut toujours continuer à faire cette kavana parce que c'est l'année qui va arriver. Bien. Alors j'en arrive, si vous voulez, à l'enseignement du Grand Nouveau. Je vous retrouve la page, je vous donnerai la référence. Voilà, c'est dans un commentaire du Grand Nouveau, sur un des passages les plus difficiles du Zohar, qui s'appelle Safra Dittnoata. Je ne vais pas vous traduire, vous expliquer ce que c'est. Dans la Mishnah du Zohar, qui est une des parties les plus difficiles du Zohar, le Grand Nouveau a donné un commentaire à ce sujet. Et dans le cinquième chapitre, si je me souviens bien, une minute. Alors, le cinquième chapitre, si vous voulez la page, je peux vous la donner. C'est la page 33B de l'édition de Jérusalem. Alors, il dit ceci. Voilà quel est le principe, c'est facile à comprendre. Vous avez déjà appris cela, que l'histoire du calendrier hébraïque, depuis le premier homme jusqu'au temps messianique, dure 6000 ans. Or, ces 6000 ans correspondent aux 6 jours du commencement. C'est-à-dire que les 6000 ans sont le développement de ce que la Torah nous raconte dans le récit des 6 jours du commencement. Les 6 jours du commencement sont en germe ce que ces 6000 ans représentent. Et par conséquent, il y a une correspondance, non seulement de jour à jour, ce qui s'est passé dans le premier millénaire de la civilisation humaine correspond au premier jour du commencement, etc., deuxième, troisième, mais jusque dans le détail. Alors nous avons notre part une Gemara qui nous explique tout ce que le premier homme a fait le sixième jour du commencement, puisqu'il a été créé le sixième jour. Okay? Alors le Gaon de Vilna nous dit ceci, je vais vous dire. Veda et sage, je colle et loi et que ces 6 jours, il s'agit des 6 jours du commencement, remèse de Shechet al-Paim Shana, sont une allusion aux 6000 ans de l'histoire, chez Enbar et Yamin, qui sont les 6 jours, chez Ismaël, comme on l'a expliqué plus haut, et d'après ce que dit le Zohar, Shita al-Finchin, Talian, Meshita Kalmaï. Les 6000 ans dépendent des 6 antérieurs, les 6 antérieurs sont les 6 jours du Mansé de l'Echa. Le Kola pratique, et tous les détails chez les Vavyamimelou, qui sont dans ces 6 jours-là, et Midna Ayan, les Vavakim, se retrouveront dans les 6000, Kolechad de Yomo, chacun dans son jour, le château, et dans son heure, où Mikan Teda Ketsadeoula, et de là tu apprendras quel sera le Ketz de la délivrance chez Ibeïda, lorsqu'elle vient en son temps, Hazbe Shalom le préserve. Vous voyez ce que dit le Gaon. Mais en son temps, il y a 200 ans à peu près, il espérait encore que les Juifs méritent. Nous, bon, s'ils ne méritent pas, alors il viendra en son temps, Dieu préserve, ça veut dire que les catastrophes vont arriver. Vous suivez le. Et que chez l'eau, ils accueillent, et ça veut dire quand ils n'auront pas de mérite. Chez vous, Ketza Acharon, et il s'agit de la fin ultime, il n'y a pas d'autre date de rendez-vous possible après, et voilà ce qu'il arrive. Où Mashbia Ani est à Kore, et je fais jurer le lecteur. Mais Hachem est le Dieu d'Israël, au nom du Dieu d'Israël, chez l'eau égalée, qui ne dévoile pas ça. Vous vous rappelez, quand on étudiait la Gemara, on avait promis de ne pas dévoiler le temps de la fin de l'Église. Bon, alors voilà quelle est l'explication qui en ressort, d'après la Gemara de Sanhedrin. Chaque jour correspond à 1000 ans. Mais dans chaque jour, il y a 12 heures de nuit et 12 heures de jour. Et la Gemara nous dit à la première heure du jour, voilà ce qu'on fait d'Adam Rishon, à la deuxième heure, à la troisième heure, à la quatrième, à la cinquième heure, à la sixième. Or, à la fin de la cinquième heure, la Gemara dit Kam Berablav. Kam Berablav, ça veut dire il s'est dressé sur ses pieds. Bon, je vous en parle des cas de ce qu'il a fait dans les 12 heures, c'est un autre programme, mais à la fin de la cinquième heure, au début de la sixième heure, il s'est dressé sur ses pieds. Kam, c'est le même mot que Tkuma. Okay? Alors, l'allusion du Gaon, c'est que, de la même manière que le premier homme s'est dressé sur ses pieds à la fin de la sixième heure, de la même manière, la fin de la Galoute sera à la sixième heure du sixième jour, c'est-à-dire, quelle année vous allez calculer vous-même, en même temps, papier. On enlève d'abord 500 ans de la nuit, puisque 1000 ans, c'est un jour de 24 heures. On enlève 500 ans de la nuit. On a d'ailleurs la surprise de voir qu'à ce moment-là, le temps de l'une a aîné, donc on a un problème.
Et ça, c'est une coïncidence. Et puis, on divise 500 par 12, on a le nombre d'années qui correspondent à une heure, on établit la fin de la cinquième heure, on arrive le jour même où à Jérusalem, on a reçu le télégramme de l'ONU que l'État d'Israël est né. C'est une histoire de calcul élémentaire. Qu'est-ce que vous voulez savoir, ce qu'il y a à la 7e heure, à la 8e heure? Écoutez, 1000 ans, c'est un jour. Dans un jour, il y a 24 heures. Vous enlevez d'abord 12 heures de nuit, ça fait 500 ans. Bon, on est déjà à 5500. Donc, ensuite, il reste 12 heures que c'est 500 ans. On divise 500 par 12 et on a le nombre d'années pour une heure. Alors on établit comment ça fait la fin de la cinquième heure, on cherche dans le calendrier et on trouve que c'est le jour pile où l'État d'Israël est. Alors, vous voulez que vous compreniez cela. Vous comprenez, d'abord, comme le village n'a pas oublié, vous comprenez aussi pourquoi il fait jurer qu'on ne le dévoile pas pour celui qui a conclu avant que ça arrive. Parce que si on se situe, par exemple, il y a 150 ans, on va dire, vous savez, eh bien, si vous ne méritez pas, c'est le 14 mai 1948, le 5 milliard 5700. Alors, qui va attendre jusque-là? Oh, comme on disait en on aurait perdu patience. Bon, on va expliquer ça, pourquoi la démarche, vous rappelez, pourquoi il ne fallait pas révéler le temps de la fin. Bon, alors, ceci dit, j'espère vous avoir fait comprendre que aucune discussion théologique de la part, en tout cas, de ceux qui sont censés être des croyants de la Torah n'a de base, n'a de sens par rapport au fait que l'événement est arrivé le jour fixé par les prophètes de Dieu. Je pense que c'est clair. C'est à partir de ce moment-là, point final, il n'y a plus à discuter. Parce que qui a dit ça, entre autres, le Gaon de Vilna. Vous comprenez, qu'un juif qui se dit incroyant, aucune relation avec la Torah, je ne crois pas à cette histoire, la mystique, tout ce que vous voudrez, il n'y a pas dans le coup. Qui vous disent, je ne crois pas que l'État d'Israël soit un événement messianique, d'autant plus que je ne crois pas aux événements messianiques, c'est notre problème. Mais qu'un juif croyant, pratiquant, du Franao, du Gaon de Vilna, ne veulent pas voir dans le sionisme l'événement messianique prophétisé par les prophètes, eh bien, c'est qu'il a des problèmes avec le Gaon de Vilna.
Pourquoi est-ce qu'on enlève le 500 ans pour la nuit?
Parce que la Gemara nous dit ce que Adam Arishon a fait pendant le jour. Je vous ai dit tout à l'heure. Pendant la nuit, il dormait le pauvre dans le sein de sa mère, la terre. Il est en exil encore. Bon, et si vous pouvez, si vous avez suffisamment de capacité d'étude, d'étudier l'histoire du monde dans ce sixième millénaire, ce qui s'est passé dans les 500 premiers ans de la nuit de Adam Arishon, ce qui s'est passé dans les 500 dernières années, nous sommes en 5730 et quelques, donc il y a 230 ans, et vous voulez cette espèce d'accélération foudroyante de l'histoire depuis l'année 5500, et on est dans la fin du sixième jour. Okay. Donnez-moi un pirkei avot, je vous lis une jolie Mishnah. Oui. C'est en Mincha de Shabbat. Et je continue. Et vous suivrez parallèlement ce qui se produit dans l'histoire juive. C'est à partir de l'année 5500 que commencent les premières prises de conscience du nationalisme juif et l'opposition avec les autres tendances, l'assimilation de l'émancipation française, l'israélite français, le Bund, entrer dans l'international socialiste, la réaction de l'orthodoxie, le refus du nationalisme juif, etc. Tous ces problèmes-là se situent là. היום קצר והמלאכה מרובה. Je crois que c'est dans le troisième chapitre. Alors, vous avez au chapitre 2, Mishnah 20. Vous voyez ? Notez la référence et vous l'étudierez dans tout là-haut. Chapitre 2, Mishnah 20. Rabbi Tarfon, Omer. Rabbi Tarfon dit : Dieu, à Yom Katar, le jour est court, vers Melacham et Uba, et l'ouvrage est nombreux. À Poali Matselim, les ouvriers sont paresseux. À Sahar Arbe, pourtant le salaire est grand. Le maître de la maison est pressé. Ça c'est, je ne sais pas si vous êtes rentré dans une maison juive un vendredi ou si bien. Dans tous les cas, ça se passe comme ça. Le jour est court, juste on ajoute le temps, Shabbat. Et puis, il y a tellement d'ouvrages que tout semble que si les poids, même si les ouvriers sont diligents, je ne sais pas comment on dit, en réalité ils sont paresseux, regardez à vie comment ça marche, on s'appelle. Et pourtant, on sait que le salaire est grand, et le maître de la maison est pressé de dire le kiddush du Shabbat, c'est-à-dire le temps messien. Alors, on a dit cette Mishnah, ça concerne le sixième jour. Vous êtes rentré une fois dans une cuisine juive, la fin d'un Shabbat, un vendredi après-midi. Tout est en balaga, okay. Et puis subitement, Shabbat arrive, c'est le palais. Vous avez remarqué ça, subitement. Quelle que soit d'ailleurs la longueur de la journée. Hein. Mais c'est exactement ça l'état du monde à la fin du sixième millénaire. Hein. C'est la cuisine de préparation du Philippe du Chemin. C'est le nom. Tom. Bien. Je crois que j'ai fini pour cela. Ce que je voudrais, c'est qu'on reprenne très rapidement l'office du Shabbat matin. Attendez, je voudrais vous donner d'abord une précision pour l'office, pas du Shabbat matin, il y aura un Shabbat le matin. Remarquez, je ne peux pas vous promettre que je sois là le Shabbat le matin, mais si je ne suis pas là, il y aura un autre groupe qui dirigera l'office. L'essentiel, c'est de dire le parallèle. Okay, et vous suivrez sur ces livres, tout vous est donné en clair. Okay, dans l'office. Bon, alors, on commence donc par le psaume de Pessah. Ensuite, on a deux des psaumes qu'on dit le vendredi soir. Adonai Melach Dagel Haaretz et Mizmor Shiru Lachem Chechadash. Et ensuite, on dit quelques paragraphes de l'Echadon. Alors, dans les sidurim de Rinat Israël, vous suivez ? Dans les sidurim de Rinat Israël, on ne vous a donné que It Oreri, Lot Evoshi et Yaminu Smol. Mais en réalité, on commence à Mikdash Meler Il Merucha, c'est-à-dire le paragraphe précédent. Vous voyez ? Et le refrain, ce n'est pas l'Echad biblique, mais un verset des psaumes qu'on dit dans le Hallel, Ze Hayom Asa Hashem, Nagila Venisnecha Bo. Zéhayom, Asa Hashem, Nabila, Venis, Nechavot. Alors je traduis. Zéhayom, qu'est-ce qui se passe alors? Vous n'avez pas saisi? Zéhayom, ce jour, Asa Hashem, que Dieu a fait, Nabila, Venis, Nechavot, nous nous réjouirons et nous serons joyeux en lui. Bon, je ne crois pas que j'arriverai à chanter, sinon je vous aurais appris ce chant, mais. Si j'arrive pas, peut-être demain matin, je l'apprendrai à la coupe. D'ailleurs, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je fasse cours aux deux titres à la fois. Bon, je vais laisser avec l'air tout à l'heure. Bon. Alors, ensuite, vous avez un chant qui est Kol Rina Rishua Velo Tzadikim. Vous savez chanter cela? Bon, ça vous l'avez appris? Donc. Bon, après on fait la fila de l'arbitre sur un air de fête. Et puis après, on ouvre l'armoire de la Torah. On dit Shema Israël. Hachem Elokim, comme on a vu, on dirait la prière de la bracha de Sheikh Yannou qui n'est pas portée dans vos livres. Ensuite, il y a un certain nombre de versets, et puis on sonne le shofar, on chante les Shanaba, les Oshalaim, Abenouya. Et après, il y a un Hir à son niveau, d'ailleurs, avec ses livres. Chaque fois que vous avez Hazan et Kahal, ça veut dire et le Shalar Tibour et le Minyan dit ensemble ce qui est dit. Bon, vous avez aussi un autre chant, c'est Oshia et Tramecha, Vore et Mahalatecha. Ça, vous savez chanter aussi. Bon. Top. Après, on chante le Himloch, Shira Ma'alot, sur l'air de la Tzva, le Anima Amin. Et, ah non, avant le Anima Amin, on dit le Homer, et puis après, on change le Anima Amin. Top. Alors, je vais vous mettre à peu près au courant pour ce. Maintenant, pour Shachri. Alors, on fait d'abord Shachrit habituellement.
Pour le Shmona Esrei, c'est vrai,
non, non, attendez, je vais vous montrer. On fait Shachrit habituellement, mais dans les psaumes qu'on dit avant le Kaddish du Yotzer, on dit les psaumes du Shabbat. C'est-à-dire, on commence à Hashamayim et Saperim Kevodem, après le Hashem Melech. Hein? On dit les psaumes comme Shabbat, pas comme le jour. Ensuite, on fait le. La Shirat Hayam, c'est-à-dire le passage de la mer Rouge. La Shirat Hayam, on le chante comme Shabbat, puisque Yom HaTzmaout correspond à Shevi Shel Pesach. Ensuite, on fait la Tfila habituelle de chaque jour. Et après la Hazara, vous avez le Tikkun qui continue, Misha Asanissim. Vous suivez un sur le livre. Il y a là la page Nun Liman, dans chaque livre. Vous suivez ? Dans ces livres-là, je suis arrivé à la page. Dans ces livres-là. Après la répétition de la Hamida, à la page 120. Alors, on dit le Michel Asanissim, et ensuite on dit la Bracha qui a avant le Halel. Et la Bracha, c'est l'Ikro et le Halel. On ne dit pas le Halel complet parce qu'on se trouve dans le Homer. À partir du. Je vous ai expliqué ça hier. On dit le Halel complet que les premiers jours de Pessah, le premier jour de Pessah, les deux Angola. À partir de là, on dit le Halel pas complet jusqu'à Shavuot, on dit le Halel complet. Bien ?
Dans ce livre, je
ne
mets pas la Bracha.
Parce que c'est un livre probablement d'avant la décision du Rav Goren. Oui, c'est un livre ancien. Celui-là, c'est le plus récent. Là, vous l'avez entre parenthèses, à cause des communautés où on ne suit pas la chassioniste. Enfin, vous savez qu'il y a toutes les nuances, mais je n'ai pas besoin encore de vous citer le Rav Goren. Il faut dire la part. C'est clair. Alors, on dit le Hallel. Et puis, après le Hallel, vous continuez. Vous dites le Yalel Bra, la bénédiction d'après le Hallel, le Kaddish, et puis ce n'est que lorsque c'est un lundi ou un jeudi qu'on sort la Torah. Comme ça sera mercredi, on ne sort pas la Torah. Et par conséquent, vous dites que la Haftara est sans bénédiction. Cette Haftara, vous l'avez dans ce livre-là, à la page 133. C'est la Haftara de l'arrivée du Messie. Hein? Celle qu'on dit dans la Golah.